Vous le savez, on en a parlé toute la semaine. Ce soir, c'est le match d'ouverture au Centre Bell. Mais au-delà du match, Canadiens et Kings, évidemment, on fait une fête pour souligner le 25e anniversaire de cette conquête de la Coupe Stanley en 1993. La dernière du Canadien et la dernière également d'une équipe canadienne. On en parle à l'instant avec l'ancien joueur de cette édition, maintenant entraîneur au niveau collégial 3 en Estrie avec le collège Champlain-Lennoxville. C'est Stéphane Lebeau qu'on joue au téléphone. Salut Stéphane!
Salut!
Comment vas-tu?
Ben, je vais très bien, vous aussi.
Oui, merci, merci. C'est gentil de prendre du temps pour nous, c'est très apprécié. Stéphane, dis-moi, vous l'avez su quand qu'il allait avoir une fête ce soir?
Ben, ça fait environ un mois qu'on a reçu l'information comme quoi qu'il y avait des retrouvailles et une cérémonie pour nous honorer. Donc, j'ai trouvé là très gentil l'organisation du Canadien d'avoir cette pensée-là pour nous. Et j'ai vu un petit peu la liste des joueurs qui vont être présents. Il va manquer de toute évidence certains joueurs, mais
oui.
On sera quand même bien représenté. Ça sera vraiment un plaisir là, de renouer avec l'édition 93.
Est-ce qu'il y a des joueurs là-dedans avec qui tu es encore en contact?
Ben, très peu. J'en côtoie quelques-uns à l'antichambre, dont Guy Carbonneau, Vincent Danfousse, à l'occasion Benoît Brunet. Je vois parfois Kurt Muller. Et il y a eu une petite activité cet été dans le cadre du Grand Prix de Montréal.
Okay.
Patrice Brisebois avait organisé un genre de petite retrouvaille. Donc, j'avais eu la chance de voir... Gary Lehman était là. Ensuite de ça, Jean-Jacques Daigneau aussi également il était là. Jesse Bélanger. Jacques Demers était là. Mais quand même, c'est toujours un réel plaisir de se retrouver là, à chaque fois qu'on se voit. Là, déjà 25 ans, qui peut croire, ça fait déjà 25 ans. Mais malgré que ça fait 25 ans, dès qu'on se rencontre, c'est comme si on s'était jamais quitté. Les liens d'amitié et le respect mutuel qu'on a pour l'ensemble de nos coéquipiers, ben, c'est là pour le reste de la vie. Là.
Stéphane, tu dis on est soudés. Est-ce que cette année-là, en 93, dans le vestiaire, c'était impensable pour nous de croire qu'il y avait des clics? C'était une seule équipe qui a gagné la Coupe Stanley? Il n'y avait pas de gang là-dedans?
Ah, vraiment pas. Tout le monde dit qu'on avait tellement de Québécois. Mais oui, c'est vrai, on était pratiquement moitié-moitié francophone et anglophone. Mais la chimie qu'il y avait là-dedans, c'était tout simplement incroyable. Il fallait le voir lorsqu'on était sur la route. Oui, c'est sûr qu'il y a toujours des liens plus serrés avec d'autres joueurs. Même à l'intérieur du groupe des francophones et à l'intérieur du groupe des anglophones, il y a des fois un petit peu plus des complicités qui vont s'animer ou qui vont exister. Mais de toute évidence, on n'avait vraiment pas de problème de se mêler les uns les autres au restaurant, dans le vestiaire. C'était vraiment un esprit d'équipe uni. Et c'est ce qui fait en sorte aussi là, que une des raisons pour lesquelles on a réussi à aller aussi loin et de gagner la Coupe.
Stéphane, je ne ferai pas de cachette. Évidemment, en 93, j'étais un partisan des Nordiques. Je ne travaillais pas dans les médias. J'étais un ticu qui allait voir les Nordiques parce que mon père avait des billets de saison. Puis une fois de temps en temps, c'est moi qui avais le droit d'y aller. Les deux premiers matchs, évidemment, sont remportés dans la première ronde que vous avez joué contre les Nordiques. Les deux premiers matchs sont présentés à Québec. Les deux sont remportés par les Nordiques. Qu'est-ce qui fait la différence pour qu'il se passe un déclic dans votre vestiaire et que vous réussissiez à gagner en 6?
Ben, ce que je peux voir, c'est 93, c'est des bons souvenirs pour moi, peut-être des moins bons souvenirs pour toi,
ouais,
pour les partisans des Nordiques.
Ouais.
Mais il faut comprendre là, que la première série contre les Nordiques, c'était en soi une mini-Coupe Stanley. Là. Les gens de l'époque vont se rappeler là, la grande rivalité, puis c'était une guerre à gagner. Il ne fallait pas perdre ça, parce que sans ça, nous, les Québécois qui passaient l'été en seul Québécois, ça aurait été tout simplement un cauchemar. Sauf que oui, on tire l'arrière 2-0, mais on a perdu les deux matchs à Québec. Donc, on revenait au Forum.
Oui.
Et à l'époque, on était une équipe très mature, avec beaucoup de leadership dans le vestiaire. On n'a jamais senti qu'il y avait une panique. Oui, il y avait un sentiment d'urgence. Il fallait pas échapper le match numéro 3, de toute évidence. Donc, c'était l'approche qu'on avait. Gagnons nos deux matchs à Montréal, égalisons la série, et puis par la suite, tout est possible. Puis on avait joué quand même deux bons matchs à Québec. C'est pas comme si on s'était fait déclasser par les Nordiques. Donc, il y avait quand même un sentiment d'urgence, mais il y avait quand même une confiance qu'on était capable de renverser cette série-là.
Vous avez gagné un des deux matchs en prolongation et au Forum, il y a un de ces deux matchs-là. Évidemment, vous n'avez gagné 10 de suite en prolongation par la suite, mais dans la série finale contre les Kings, vous avez gagné un match en prolongation au cours duquel, en fin de troisième, il y a eu un mesurage de bâton, du fameux bâton de Monty McSorley. On voit encore les images. On s'en souvient quasiment comme si c'était hier.
Oui.
Est-ce qu'il y a un joueur dans votre équipe qui avait remarqué que McSorley avait un bâton illégal. Puis dans quelle mesure, comment tu peux expliquer à nos auditeurs ce soir dans l'émission pourquoi il n'y en a plus de mesurage de hockey dans la Ligue nationale?
Bien, ils ont passé un règlement il y a plusieurs années comme quoi que c'était pas éthique de le faire, mais okay. Il faut se souvenir qu'à l'époque, c'était vraiment une façon de faire qu'on voyait très souvent, même en saison régulière, en fin de match, les équipes prenaient des chances. Et donc, c'était coutume. Personne n'était surpris lorsqu'on a fait cette demande de stratégie-là de la part de Jacques Demers, mais en cours de saison, dans le forum, évidemment, là, on voit jouer les joueurs, nos adversaires, et tranquillement, pas vite, vu que c'était permis à cette époque-là, on avait les yeux sensibles pour regarder les joueurs qui avaient des bâtons aux soupçons illégales. Donc, en finale de la Coupe cette année, on le savait, il y en a qui ont déjà dit qu'on avait été espionné le vestiaire de l'autre équipe pour s'assurer. Non, des joueurs de Los Angeles, il y en avait plusieurs qui jouaient avec des bâtons illégaux. Chez les Canadiens, on avait des joueurs qui jouaient avec des bâtons illégaux. Il faut comprendre que ceux qui jouaient avec des bâtons illégaux, ils entraînaient toujours un ou deux de légal.
OK.
Au cas où qu'en fin de match, on le savait très bien qu'on était peut-être nous autres susceptibles de se faire appeler mesurage de bâton.
Okay.
Donc les joueurs, entre autres Vincent Danfous, John Leclerc, ça jouait avec des bâtons avec une coupe trop prononcée, mais il y avait des bâtons en conséquence légales. Puis du côté de Los Angeles, Luc Robitaille, on soupçonnait qu'il y avait des bâtons, une courbe illégale également. Marty McSorley. Puis à la fin, on a tranché sur McSorley. Ça semblait encore plus évident.
Okay.
Sans savoir qu'on était certain. Puis ça, ce moment-là a été un moment clé de la finale parce qu'on avait échappé le match numéro 1.
Oui.
On perdait le match numéro 2. Donc c'était en désespoir de cause. Mais il ne faut pas oublier, là, on a eu l'avantage numérique grâce au bâton illégal.
Exact.
Mais je pense qu'on était 0 en 25 lors des 25 dernières tentatives de l'avantage numérique.
Okay.
Donc, il fallait avoir l'avantage numérique, mais il fallait produire. Et quel match de Éric Desjardins qui marque le but égalisateur, son deuxième du match.
Oui.
Et il va compléter son tour du chapeau en sortant. Donc, quand on parle de magie, un peu de chance que ça prend pour gagner la Coupe cette année, ben, ce match-là, là, ça en est un bel exemple.
Stéphane, quand on est ticu et on joue au hockey dans la rue, à mon époque, à moi, c'était d'imiter un jour Wayne Gretzky. Finalement, j'ai manqué mon coup. Mais est-ce que tu réalises des fois, avec du recul, que non seulement tu as gagné la Coupe Stanley, mais dans le dernier match que vous avez joué, votre victoire de 4-1, tu as marqué un but dans le dernier match de la finale de la Coupe Stanley, sans dire que nous, le scénario dans la rue, c'est toujours c'est en prolongation au septième match. Dans ton cas, c'était pas ça.
Exact.
Mais c'était comme ça quand tu jouais dans la rue, toi aussi. Hein. Mais là, on est au cinquième match, vous gagnez 4-1, tu marques l'un de ces buts-là. Avec du recul, ça doit être toute une fierté pour toi quand même.
Bien, c'est sûr. Écoutez, ce but-là, fait le 3-1 lors du match décisif, a vraiment fait mal aux Kings de Los Angeles. Moi, j'étais blessé durant ces séries-là. Je jouais avec une cheville et un genou amoché. J'étais pas à mon 100%. Ma contribution offensive n'avait pas été aussi bonne qu'en saison régulière, mais marquer des gros buts, ben, ça fait toujours plaisir. Et puis ce but-là, de toute évidence, je m'en souviens. Et j'avais marqué un gros but au préalable en deuxième période de surtemps contre les Islanders de New York. Mais ce but-là, en match décisif, de toute évidence, là, c'est un de mes plus beaux souvenirs comme exploit individuel.
Stéphane, on dit dans l'histoire que Jacques Demers vous avait remis des cartes, les joueurs de cette édition-là en 93. C'était un genre de carte chouchou ou peut-être une carte porte-bonheur où il fallait que tu gardes la carte sur toi tout le long des séries. Puis on dit que tu l'as encore. Tu es un des seuls à avoir conservé cette carte-là.
Oui, je l'ai toujours. Il était utilisé pour le livre de Jacques Demers. Je pense que Guy Carbonneau est peut-être un autre joueur qui l'a.
OK.
Mais oui, effectivement, à l'aube des séries éliminatoires, on avait une fin de saison un petit peu difficile en 93. On avait une bonne saison régulière. On s'acheminait peut-être pour terminer premier dans notre division. Malheureusement, une fin de saison un peu désastreuse. Donc, voulant secouer les troupes un petit peu, Jacques Demers avait barré le vestiaire au forum. On n'avait plus accès au vestiaire. Il nous avait emmenés au centre de la patinoire. Les lumières étaient fermées. Il nous avait parlé des bannières, de la grande tradition du Canadien de Montréal, les conquêtes de la Coupe Stanley. Par la suite, il nous avait invités à aller au salon des anciens joueurs. On avait tenu une réunion d'équipe. dans laquelle on avait lavé un petit peu notre linge sale, on s'était parlé. Et puis, pour réintroduire le vestiaire, il fallait endosser l'uniforme du Canadien. Et suite à ça, c'est là que la petite carte est arrivée. Jacques, peut-être le lendemain ou deux jours après, il est arrivé avec une petite carte qui est marquée qu'on était en mission et que chaque joueur s'engageait au succès de l'équipe. Et c'était tout simplement avec le numéro de joueur. Une carte très simple, mais qui a eu un impact possible, peut-être, surtout mental, au niveau de la confiance, d'y croire. Parce que Jacques Demers, dès la journée 1 du camp d'entraînement, avait mentionné qu'on était pour choquer le monde du hockey. Il croyait déjà en nous. Il nous le rappelait une fois de temps en temps durant la saison. Et à l'aube des séries, avec cette petite carte-là, c'était encore une façon à lui de dire, écoutez les boys, on est capable si on y croit, puis si on joue ensemble.
Stéphane, tu as eu une longue carrière dans le hockey. Tu diriges maintenant des jeunes au niveau collégial. On dit Jacques Demers qu'il a été un des players coach les plus influents dans le monde du hockey. Players coach, pour les gens qui écoutent mon émission ce soir qui sont moins familiers, on dit que c'est un entraîneur qui est quasiment ami avec les joueurs. C'était un peu ça, Jacques Demers?
C'était un peu ça, mais avec un mélange d'autorité et d'exigence.
Okay.
Parce que tu peux pas juste être chum avec les joueurs.
Non.
Puis Jacques, il savait qu'il savait flatter ou prendre les joueurs de la bonne façon. Puis, un bon exemple de ça, j'ai connu ma meilleure saison en carrière sous Jacques Demers, mais je suis pas le seul. En 92-93, je pense que 8 autres joueurs de mes coéquipiers qui ont également connu leur meilleure année avec Jacques Demers.
Okay.
Mais Jacques, c'est ça, c'était un peu le bon père de famille que tu voulais pas décevoir, mais qui était exigeant. Il allait chercher le respect des joueurs, puis tu voulais te défoncer pour un gars comme Jacques Demers parce qu'il voulait ton bien. Fait que, il te flattait dans le bon sens, mais quand c'était le temps de te taper ses doigts, il n'était pas gêné de le faire. À un moment donné, durant la saison, il avait fait vie à 5h30 pour faire un entraînement matinal au Forum de Montréal. Il n'y avait pas de difficulté à être parfois là, à serrer la vis, mais en fois de tout, c'est à la base, il a cru en nous, il a su transmettre cette croyance-là, cette confiance qu'il avait en nous, et il a, de toute évidence, été le chef d'orchestre de 1993. Oui, Patrick Roy a fait les gros arrêts, soutenu par une excellente équipe de hockey derrière lui, mais il faut donner crédit en grande partie à Jacques Demers qui a su d'un main de maître de diriger tous ces individus-là de belle façon.
OK, quand tu dis qu'il était exigeant et sévère, jamais autant que Pat Burns, qui est malheureusement décédé au fil des ans. Pat Burns, on avait l'impression qu'il était juste sévère.
Ben Pat Burns, c'était un style complètement différent. C'était un policier de par métier.
Oui.
Puis il dirigeait un petit peu le Canadien comme un policier.
OK. OK.
Très exigeant. On savait jamais à quoi s'en tenir. Pat, j'ai eu pas des conflits avec lui, loin de là. Il m'a fait un peu la vie dure, mais il a pas fait la vie dure seulement à Stéphane Lebeau. Il a fait la vie dure à plusieurs joueurs. Mais il faisait, c'était son style, il coachait à sa façon. Mais Pat Burns, on pouvait le rencontrer, on pouvait le croiser 4 fois dans le couloir, il te regardait même pas. Et le lendemain, il te saluait, il te demandait comment ça allait, okay. Ta famille, et ainsi de suite. Okay. Le lendemain, tu pensais qu'il était pour te saluer, puis il te regardait pas. Donc, c'était deux styles complètement différents. Et l'arrivée de Jacques Demers, de toute évidence, a été bénéfique parce qu'on avait peut-être besoin d'un changement d'attitude dans le vestiaire en 93.
Avant de te laisser, Stéphane, je veux savoir, à chaque semaine dans mon émission, je parle avec Simon Gagné, l'ancien joueur, puis il me dit qu'en 2010, quand ils ont perdu avec les Flyers, en deuxième prolongation du match 6 contre les Blackhawks de Chicago, la Coupe Stanley, les gars dans le vestiaire se sont regardés puis ils se sont dit, ben, c'est pas grave, on a une bonne équipe, on la gagnera l'an prochain ou dans 2 ans, la Coupe Stanley. Finalement, les Flyers l'ont jamais regagné depuis ce temps-là. Est-ce que tu as eu l'impression, en 93, une fois que vous aviez la coupe à bout de bras, que ça allait se reproduire dans les années qui allaient suivre, et ce soir, on souligne le 25e anniversaire quand même de cette coupe-là.
Oui. Non, je dois dire que le gagner une fois, lorsqu'on la soulève, on l'apprécie. C'est un rêve qui devient réalité pour plusieurs dans le vestiaire, mais on s'aperçoit à quel point c'est difficile de gagner la Coupe Stanley.
Okay.
Puis, d'y avoir la chance de le faire, il faut vraiment en profiter et saisir l'occasion, et puis on sent quasiment une tristesse pour l'autre équipe, parce qu'eux autres aussi, là, ils sont à la portée de leur rêve, puis ils l'échappent. Donc, il faut, comme je dis, là, on ne sait jamais quand est-ce que l'opportunité va arriver, même si on est les favoris. On a vu les Capitals de Washington cette année, l'année passée, gagner la Coupe Stanley, alors que ça faisait 5-6 ans qu'on pensait qu'ils étaient pour avoir l'équipe pour la gagner. Donc, c'est extrêmement fragile, c'est extrêmement difficile. Et puis, même si on est la meilleure équipe, il faut rien prendre pour acquis. Puis, de l'autre côté, même si on n'est pas les favoris, il y a toujours une possibilité d'aller chercher la Coupe Stanley si tout arrive au bon moment, avec un peu de chance, avec une équipe et des joueurs de qualité, comme on a vécu en 93.
Et pour reprendre mon exemple du petit gars qui joue au hockey dans la rue, comme moi j'ai déjà été, comme toi t'as déjà été, comme plusieurs jeunes qui nous écoutent ce soir sont actuellement, ben non seulement toi, t'as réussi à gagner la Coupe Stanley, mais t'as réussi à la gagner contre Wayne Gretzky.
Oui, c'est quelle coïncidence. J'ai joué mon premier match dans la Ligue nationale contre Wayne Gretzky. À la maison, j'avais un chat qui s'appelait Wayne, une chatte qui s'appelait Janet. J'ai toujours une collection de cartes de hockey. J'ai au-dessus de 3000 cartes de Wayne Gretzky. J'avais des photos, des bâtons de Wayne Gretzky. Donc, lui, mon idole de jeunesse, s'interposait entre mon rêve et la Coupe Stanley. Donc, à l'autre des séries, j'avais dit qu'il n'était plus mon idole. Ça a fait la page, le frontispice du Journal de Montréal. Gretzky n'est plus mon idole.
Okay.
Et puis, pendant un certain temps, c'est justement, j'ai toujours du respect pour Gretzky, mais il n'est peut-être pas question que mon idole m'empêche de soulever la Coupe Stanley. Et je peux dire que ça fait encore un petit peu plus spécial d'avoir gagné la Coupe Stanley en battant mon idole. Ça, je peux le dire avec fierté.
Et une fois le match 5 complété, il est redevenu ton idole?
Un petit peu plus tard. J'avais baptisé mes chats Savi et Mona à l'honneur de Denis Savard.
OK.
Mais de toute évidence, pour moi, Gretzky est encore le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. J'ai peut-être un petit parti pris, mais de l'avoir battu en finale de la Coupe Stanley, c'est encore plus spécial.
Ah, j'en doute pas. Un gros merci, Stéphane, de nous avoir parlé, puis bonne célébration ce soir.
Ben, un gros merci.
À bientôt.
À bientôt.
Bye-bye. Stéphane Lebeau, l'ancien numéro 47 du Canadien, qui était un très bon joueur offensif. Pas gros physiquement, mais quel talent de hockey. Il sera là de la fête ce soir au Centre Bell. Il a fait partie de cette édition prestigieuse de 1993 qui a remporté la Coupe Stanley. Évidemment, avec le Canadien, en 5 matchs contre les Kings de Los Angeles.